Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Agnès Bonfillon, Julien Cellier, bonsoir à vous deux.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'infos et de curiosité pour tout savoir, pour tout comprendre. Et à la une, l'immigration choisie. Le gouvernement veut créer un titre de séjour pour les métiers en tension. Colère déjà de la droite, de l'extrême droite. En revanche, RTL a rencontré des patrons qui cherchent désespérément de la main d'œuvre. Et eux, ils applaudissent.
À la une également, la hausse des dérives sectaires. La période Covid a fait le bonheur des charlatans et autres gourous sur les réseaux sociaux. Un petit air de déjà-vu, revu, re-revu même. Elisabeth Borne dégaine l'article 49.3 pour la quatrième fois. La France insoumise dépose une nouvelle motion de censure. Et puis en tennis, le pot de départ à la retraite de Gilles Simon est peut-être pour ce soir. Ou pas, tout dépend de son match à Paris-Bercy.
À 18h15, notre invitée sera Monica Bellucci. L'actrice incarne dans quelques jours Maria Callas au Théâtre du Châtelet à Paris. Dans un quart d'heure, la brigade RTL en Chine, la plus grande usine du monde. 200 000 personnes confinées à cause du Covid. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, la dernière collection Camailleux vendue aux enchères après la fermeture des magasins. 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes d'infos autrement avec Cyprien Signy et la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu s'il vous plaît.
Ce soir, on va vous plonger dans les coulisses des services secrets. Vous allez découvrir comment les espions du monde entier enquêtent pour savoir qui a saboté les gazoducs Nord Stream. Au menu également, l'élimination invraisemblable de l'OM en Coupe d'Europe, ça fait mal. Et une visite aux zoo qui a failli très très mal tourner.
À 19h15, on va refaire le monde autour d'Aurélie Arbemont et puis le temps tout au long de l'émission avec vous, Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain.
Rien à voir avec aujourd'hui, un temps bien agité, pluvieux et venteux.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Agnès Bonfillon.
Des magots pour les uns, dangereux pour les autres. Les députés de l'opposition accueillent fraîchement les annonces du gouvernement en matière d'immigration.
D'une part, un meilleur suivi des personnes qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire, mais aussi parallèlement la création d'un titre de séjour pour les métiers qui manquent de main-d'œuvre. Si cela fait débat dans l'hémicycle, qu'en pensent les principaux concernés, les travailleurs sans papier, mais aussi les patrons qui peinent à recruter. À Tours, Christian Panvert, vous avez rencontré un restaurateur prêt à embaucher plus d'étrangers.
Absolument, le gérant du bistrot gourmand au Chien Jaune à Tours emploie déjà deux apprentis hindous et il est régulièrement sollicité par des étrangers qui ne sont pas autorisés à travailler en France.
J'ai des demandes de gens qui veulent travailler, qui sont pakistanais, qui sont libanais, qui n'ont pas de papier, on ne peut pas les prendre, c'est impossible, les risques sont beaucoup trop grands, on doit respecter la loi.
Il assure que si des titres de séjour pour métiers en tension sont instaurés, il embauchera immédiatement.
J'en prends un ou deux. Imaginez dans les grands hôtels, dans les grands restaurants, etc. C'est des dizaines de milliers d'emplois qui seraient pourvus.
Ça permettrait à votre restaurant de faire un meilleur chiffre?
Ah oui, tout à fait. 10 à 15%. Et puis dans certaines maisons relativement grandes, entre 25% et 30% de plus. Oui, c'est un manque à gagner énorme. Manque à gagner pour le restaurant, puis manque à gagner pour l'État. Si on ne fait rien, dans 10 ans, des restaurants comme les miens, ça sera fini. Il ne restera que deux styles de restauration. La très chère et les fast-foods et les restaurations de masse, les brasseries, etc. Les bistrots comme les miens auraient disparu.
Il espère que cette proposition du ministre de l'Intérieur sera rapidement validée.
Le reportage de Christian Panvert à Tours pour RTL.
RTL Soir.
Et de 4, pour la quatrième fois, Elisabeth Borne dégaine le 49.3 et pour la quatrième fois, la France insoumise annonce le dépôt d'une motion de censure.
Et cette fois, la Première ministre engage la responsabilité de son gouvernement sur l'ensemble du budget en première lecture. Juste avant, Elisabeth Borne était au Sénat où il a surtout été question des méga bassines de Sainte-Soline, des manifestations ce week-end contre leur construction. La chef du gouvernement est à son tour montée au créneau.
Tirs de mortier, jets de cocktails Molotov, véhicules de gendarmerie détruits et une soixantaine de militaires blessés. Ce sont des scènes inacceptables et profondément choquantes. Donc je le dis clairement, l'opposition à un projet ne justifie jamais la violence.
Elisabeth Borne qui donc revient sur les affrontements du week-end, qui tape du poing sur la table, sachant qu'auparavant, en commission des lois, Marie Mollet, là aussi le ton est monté.
Eh oui, car les députés avaient rendez-vous avec Gérald Darmanin pour discuter de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur. L'occasion était belle pour interpeller le ministre qui a embrasé le débat avec un mot, éco-terrorisme. Le terme a gêné jusque dans la majorité. Alors ce matin, les députés de la NUP en ont profité pour mettre en cause l'outrance du ministre, comme l'insoumis Thomas Porte.
Une élue de la République frappée par les forces de police. Un jeune homme victime de tirs de LBD en plein visage. Mais de quoi parle-t-on, monsieur le ministre ? D'une manifestation de militants écologistes, et sûrement pas d'éco-terrorisme. Les mots ont un sens.
Réponse de Gérald Darmanin qui ne recule pas et s'attaque cette fois aux élus qui étaient sur place à Sainte-Soline parmi les manifestants.
Vous n'êtes pas Gandhi, vous étiez manifestement du côté de ceux qui ont attaqué les gendarmes à coups de pierre de 15 cm. Un député, c'est pas une immunité vivante et doit respecter toutes les règles de la République.
Des mots qui flattent la droite, le député LR Éric Ciotti a surenchéri.
Ces peines planchers auraient été bien utiles face aux extrémistes de Sainte-Soline, face à ces hordes sauvages qui ont attaqué les gendarmes.
À la droite, alignée avec Gérald Darmanin, ça tombe bien, c'était le but.
Marie Mollet du service politique de RTL. Conférence de presse improvisée il y a quelques instants du ministre de la Santé. François Braun annonce une enveloppe d'urgence de 400 millions d'euros supplémentaires pour les services de pédiatrie totalement saturés. Cette enveloppe sera destinée aux primes, aux heures supplémentaires qui vont être doublées pour les soignants, sans oublier l'accompagnement des familles dont les enfants sont transférés dans d'autres régions. On y revient en détail tout à l'heure dans le journal de 19h. Prise de conscience ou simple phénomène météo, les Français ont moins consommé d'énergie le mois dernier. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
RTE, le gestionnaire d'électricité en France, vient de publier ses chiffres. C'est très clair, hein ?
Oui, la consommation d'électricité en France est en baisse par rapport aux années précédentes de presque 6% le mois dernier et même 7% si on prend juste la semaine dernière. Et ces données sont intéressantes car il s'agit de données reliées aux températures de saison et non les températures anormalement chaudes, effectivement, que nous avons eues au mois d'octobre. Les Français font attention à leur consommation électrique, mais cette baisse est en réalité largement due aux entreprises qui ont moins consommé au mois de septembre et en octobre.
Pour le gaz, Arnaud, c'est la même chose ?
Alors j'ai compilé les données de GRT Gaz qui distribue le gaz dans notre pays, excepté pour le Sud-Ouest. En octobre 2021, les particuliers ont consommé 18 500 gigawatts. En octobre 2022, cette année, c'était 10 100 gigawatts. Ah oui. Les particuliers ont donc consommé 45% de moins le mois dernier. Alors ça fait beaucoup dit comme ça, mais il faut quand même regarder les températures, parce que là, c'est pas des données lycées. Eh bien, la moyenne pour ce mois d'octobre, c'était 16 degrés. L'année dernière, c'était 3 degrés de moins. Ça veut dire que les chaudières ont été rallumées effectivement plus tôt l'année dernière. Mais cela n'explique pas totalement la baisse pour le gaz. Les Français ont bien été plus sobres et ça se voit donc dans les chiffres.
Merci Arnaud Touche du service économique et social de RTL.
Allez, petite pause et dans un instant dans ce journal, dans RTL Soir, on va vous expliquer d'abord comment le Covid a dopé les dérives sectaires et puis on va parler tennis et de la retraite de Gilles Simon suspendu à un filet. À tout de suite sur RTL.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 19h15.
18h, 19h15.
RTL Soir.
Julien Cellier.
18h09, la suite de votre journal dans RTL Soir. Le Covid, une belle période pour les gourous et autres charlatans.
En témoignent les derniers chiffres de la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Les signalements ne cessent d'augmenter, surtout depuis la crise sanitaire. Plus de personnes isolées, davantage de réseaux sociaux pour compenser. Tous les feux étaient au vert, Nathan Bocard.
On les appelle des gourous 2.0, des manipulateurs isolés qui utilisent les réseaux sociaux pour répandre leur doctrine. Et pour eux, la crise sanitaire a fonctionné comme un allié. D'abord avec les confinements, les Français ont passé beaucoup plus de temps sur Internet. Et puis les recherches sur le web liées à la santé et au bien-être ont grimpé en flèche. Or, ce sont des thèmes prisés de ces gourous. Ils se nourrissent de la défiance envers la science, défiance exacerbée par la crise sanitaire. Et les conséquences peuvent être graves. Sonia Bacquès est secrétaire d'État à la citoyenneté. Elle chapeaute la Miviludes.
On a malheureusement des gens qui utilisent les vulnérabilités en termes de santé, des gens qui disent qu'il faut arrêter la chimiothérapie quand on a un cancer pour boire des jus de légumes ou qu'il faut faire un jeûne de 21 jours en se nourrissant uniquement d'air et de lumière, ce qui est quand même extrêmement dangereux. Et malheureusement, tout ça est mis sur un pied d'égalité et la crise sanitaire a contribué à ça.
Autre problème de ces gourous 2.0, ils apparaissent et disparaissent au gré des tendances. Ils sont difficilement identifiables, ce qui complique considérablement la lutte contre ces dérives.
Nathan Bocard pour RTL.
Au Brésil, les partisans de Jair Bolsonaro n'acceptent toujours pas leur défaite.
Le président sortant a mis du temps à sortir de son silence. Hier, il s'est finalement engagé à respecter la Constitution, à passer la main à Lula, son ennemi juré. Insuffisant pour calmer les tensions. Après le blocage de nombreuses routes dans le pays, des milliers de personnes déferlent en ce moment même dans les rues de Rio et réclament l'intervention de l'armée, Sarah Cozzolino.
Oui, c'est vraiment impressionnant. Des milliers de personnes en jaune et vert réclament une intervention de l'armée pour que Jair Bolsonaro reste au pouvoir. Je suis devant le bâtiment de l'armée sur la plus grande avenue de Rio, la Presidente Vargas. Et les manifestants sont venus en famille, entre amis, malgré la pluie, du centre de Rio, mais aussi de la banlieue. Ils chantent tous en chœur l'hymne national. Ils répètent qu'ils sont fiers d'être brésiliens et que la place de Lula est en prison. On a vu passer plusieurs convois de la police militaire et de la police fédérale. Les manifestants les applaudissent et en retour, la police les salue, leur sourit. J'entendais un militaire qui glissait à un manifestant. On est avec vous, protestez pour nous, car nous, on ne peut pas. Parce qu'ici, tout le monde a interprété le silence puis le discours de Jair Bolsonaro comme une stratégie bien étudiée. Pour ses soutiens, il ne reconnaît pas les élections et prépare discrètement les preuves d'une fraude électorale. En tout cas, les manifestants m'assuraient aujourd'hui que ce n'était que le début d'un grand mouvement de contestation.
Sara Cozzolino au Brésil pour RTL. Ce mercredi restera également comme une journée de très grosse tension entre les deux Corées. Pyongyang a lancé au moins 23 missiles dont l'un est tombé dans les eaux de son voisin. Séoul a immédiatement riposté dénonçant une invasion territoriale historique.
RTL Soir.
Le tennis et cette question, est-ce que Gilles Simon sera officiellement retraité ce soir après sa rencontre face à l'américain Taylor Fritz?
En tout cas au Rolex Paris Masters, le français vient de débuter son match. Peut-être le dernier de sa carrière, Isabelle Langer.
J'ai plutôt l'impression qu'il a envie de faire durer le plaisir Gilles Simon, parce que ça fait 35 minutes, il est quand même contre le 11e mondial, lui qui pointe aujourd'hui au 188e rang de la planète tennis, et ça fait 4 partout entre les deux hommes, 30 partout sur le service de Fritz, qui découvre un petit peu aussi le chaudron de Bercy et ce public que vous entendez derrière moi qui est tout acquis à la cause de Gilou, bien sûr. Alors les copains Tsonga et mon fils qui étaient là lundi ne sont pas revenus aujourd'hui, mais il y a quand même Lucas Pouille, Pierre Hugues Gerber, bravo, là, il y a du beau monde pour le voir jouer et peut-être pas, ce sera peut-être pas encore pour ce soir, hein. Tout à l'heure.
À tout à l'heure, Isabelle Langer pour RTL. En foot après le fiasco hein, pour l'OM hier, dernier match de poule du PSG ce soir en Ligue des Champions, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, les Parisiens sont déjà qualifiés pour les huitièmes, la Juventus de Turin qui reçoit le PSG, c'est à suivre évidemment sur notre antenne RTL Foot, spéciale Ligue des Champions à partir de 20h45.
Merci Agnès et à tout à l'heure. Le temps pour demain, Peggy, paf, changement radical.
Radical, exactement. Un temps bien agité, Julien, avec une perturbation pluvieuse et venteuse qui va traverser le pays d'ouest en est. Alors, toutes les régions seront bien arrosées. D'abord le matin sur les bords de Manche, avec beaucoup de vent et des pluies soutenues. Dans l'après-midi, entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le sud-ouest, mais aussi sur la région PACA, avec des pluies soutenues, voire un coup de tonnerre. On aura même de la neige en altitude, en haute altitude, hein, 2400 mètres sur les Alpes et 2000 mètres sur les Pyrénées. Et une fois la perturbation passée, la Bretagne, la Normandie va retrouver quelques éclaircies, même s'il restera aussi des averses. Le tout sous des températures qui baissent encore, mais toujours au-dessus des normales, de 14 à 17 au nord et de 17 à 22 au sud.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et la brigade RTL maintenant vous emmène en Chine où, écoutez bien, la plus grande usine du monde est confinée à cause du Covid. On va donc poser trois questions à notre correspondant à Pékin, Hugo Aubry. Bonsoir Hugo.
Bonsoir.
Alors cette usine, elle fabrique des iPhones, les téléphones, les smartphones d'Apple. Elle emploie 200 000 personnes. Toute cette foule est bloquée à l'intérieur du site ?
Oui, 200 000 ouvriers confinés dans l'usine et 600 000 personnes confinées au total. Parce que les autorités aujourd'hui ont décidé de boucler toute la zone alentour pendant au moins une semaine. Alors concrètement, cette usine qui fabrique 80% des iPhone 14, le tout dernier téléphone de Apple, continue de fonctionner, mais en circuit fermé. Ça veut dire que personne ne sort. Les ouvriers dorment sur place et pour s'assurer qu'ils travaillent, eh bien l'usine leur propose une prime exceptionnelle de 2 000 euros pour ce mois de novembre.
Pourquoi ce confinement XXL ?
Alors ce sont quelques cas de Covid qui ont provoqué en fait un vent de panique dans l'usine. On ne sait pas exactement combien de malades, mais selon plusieurs témoignages, les ouvriers étaient maltraités et certains, des centaines, se sont enfuis pendant le week-end. Du coup, la police a été appelée en renfort pour boucler tout le secteur et recherche maintenant les fuyards qui risquent la prison pour ne pas avoir respecté le confinement.
Donc ce qu'on constate là avec vous, c'est que la Chine applique toujours sa politique zéro Covid.
Oui, la Chine en fait n'a jamais allégé ses restrictions sanitaires avec des tests obligatoires partout, hein, à À Pékin, où je me trouve, c'est tous les 3 jours. Et des confinements à la moindre alerte. On estime qu'en ce moment, 200 millions de personnes en Chine sont en quarantaine, avec parfois des situations incroyables, hein, comme au parc Disneyland de Shanghai, où cette semaine, des dizaines de milliers de visiteurs ont été enfermés une partie de la nuit, le temps d'être tous dépistés, et tout ça pour un seul malade qui aurait été identifié.
Incroyable, c'est vraiment le terme. La Brigade RTL avec Hugo Aubry à Pékin ce soir. Merci beaucoup Hugo pour votre éclairage. Petite pause et puis nous allons ensuite accueillir notre invité dans RTL Soir. Restez avec nous. Monica Bellucci sera l'invitée de l'émission ce soir, l'actrice qui incarne 2 icônes, 2 mythes en cette fin d'année au théâtre et au cinéma. On vous en dit plus juste après ça, tout de suite.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 19h15. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée, RTL Soir, toujours avec vous et notre invité maintenant est Monica Bellucci. Bonsoir.
Bonsoir.
Votre actualité, elle est double en ce moment. Vous interprétez sur les planches et sur grand écran 2 icônes. La cantatrice star Maria Callas au Théâtre du Châtelet à Paris, ce sera le 14 novembre. Et puis dans un documentaire, Anita Ekberg, la tornade, comme vous dites, des 60s, actrice phare, on va y revenir. 2 icônes, 2 symboles, mais 2 femmes qui ont un point commun. Et on imagine que c'est assez émouvant de les jouer. Elles ont été terriblement libres à une époque où le monde était terriblement macho.
Bah, je dis toujours qu'à travers des femmes comme ça, nous, les femmes d'aujourd'hui, on a beaucoup appris. Parce que c'était des femmes très indépendantes dans une époque où ce n'était pas le cas. Du coup, indépendantes économiquement, des femmes qui cherchaient de vivre socialement. Et il y avait même cette capacité de s'affirmer, mais qui ont payé à cher prix.
La Callas à l'opéra, Ekberg qui resplendit dans la Dolce Vita de Fellini, ça vient à l'époque percuter l'Italie, une Italie que vous connaissez bien, où les femmes sont cantonnées à l'époque aux tâches domestiques.
Bah oui, comme vous dites, Anita Ekberg, elle est arrivée en Italie dans un moment où les femmes n'avaient encore aucune liberté sociale, en quelque sorte. Et du coup, elle a changé les esprits et elle est arrivée, comme vous dites, comme une tornade. Et c'est une femme qui aussi représente une époque où les femmes étaient, en quelque sorte, leur carrière était liée à un moment biologique de leur vie. Et après 40 ans, c'était difficile d'avoir une belle carrière et continuer à travailler, malgré on avait les talents et même tout le reste. Seulement que, pour Callas, c'était aussi la même chose. Ça veut dire que sa voix, c'était son instrument. Et c'est une femme qui a, disons, sacrifié toute sa jeunesse pour le travail. Et le moment où elle a rencontré l'amour, elle a sacrifié pour amour tout ce qu'elle avait travaillé jusqu'à ce moment précis. Et tout ça pour dire que c'est dans deux manières différentes. Des femmes qui ont eu le courage de suivre leur passion, de faire les choses avec le cœur. Et du coup, il y avait une forme de sincérité dans les deux. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans Callas aussi, c'était justement ça. Cette femme qui était une grande diva, mais à côté de ça, elle avait quelque chose de tellement fragile et sensible que juste les gens qui la connaissaient bien savaient ses côtés privés d'elle.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous la racontez, alors vous l'avez raconté depuis 3 ans maintenant à travers le monde, à travers ses lettres et ses mémoires, il y a toujours un ennemi prêt pour un moment de faiblesse. C'est ce qu'elle écrit à Grace Kelly, elle compare la scène à une arène aux fauves. Je voudrais vous faire écouter cette archive.
Et d'autre part, mais je sais que tout ça vous agace un peu, mais est-ce que vous pensez que quand on est un personnage public comme vous, on peut cacher sa vie privée au public? Enfin, je veux dire...
Mais on ne le peut pas cacher, mais j'espère... Je voudrais bien que les journaux aussi, les journaux pas de grande classe, aussi de petite classe, cherchent de respecter ce personnage. Mais évidemment, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est la lecture de petits articles faits sur les vies des autres. Donc ça, c'est un peu dangereux et pénible pour nous. Mais que voulez-vous, c'est le jeu de la vie.
Il y avait la Callas exposée comme jamais, scrutée, et puis la Maria que vous racontez, que vous avez découvert, j'imagine aussi.
Ben, comme vous dites, il y a la grande artiste intransigeante avec elle-même, avec les autres. Et après, il y a la femme avec toutes ces difficultés aussi, de trouver un compromis entre la vie privée et la vie publique.
Elle renonce à une vie de famille, elle renonce à être maman, la Callas, quelque
part. Mais, comme on dit, justement, les plus grandes douleurs de Callas, je pense que c'était pas au Nassis. Les plus grandes douleurs, c'était qu'elle n'avait pas d'enfant et n'avait pas une famille. Et pour elle, c'était vraiment très important. Et l'amour, c'était toujours les grands problèmes de sa vie. La relation avec sa mère et avec sa sœur. Et aimée par le public, adorée, mais après, dans la vie, une grande solitude.
Alors, vous venez aussi de présenter ce documentaire, The Girl in the Fountain, où se croisent votre carrière et celle d'Anita Ekberg, l'icône des années 60. Au début, je crois que vous vous êtes demandé, mais pourquoi je vais dire oui à ce projet ? Ekberg, elle était blonde, aux yeux clairs, suédoise. Bon, moi, je ne suis pas blonde et je ne suis pas suédoise. Il y a eu un moment d'hésitation ?
Non, il y a eu un moment d'hésitation parce que justement, on est tellement physiquement différentes. Et après, en effet, j'ai commencé à regarder les interviews et aussi les films, des films que j'ai connaissais aussi, comme la Dolce Vita, par exemple, ou Intervista. Mais...
Vous découvrez les similitudes parce que vous aussi, vous avez dû prouver... pour faire ce métier, prouver que vous étiez capable de faire ce métier.
Mais aussi, les risques, c'est quand l'image arrive avant la personne. Mmh. Et c'est quelque chose qui t'échappe. Et ça, c'est arrivé pour Anita Ekberg, parce que quand elle est arrivée, elle était, comme on a dit tout à l'heure, cette femme qui représentait la liberté, la beauté, l'indépendance, dans un moment où l'Italie n'était pas prête à tout ça. Et cette image qui arrivait avant elle. Et moi, je venais de la mode. Du coup, c'est vrai, quand j'ai commencé le cinéma, il y avait des a priori par rapport à moi. Mmh. Du coup, il y a des similitudes. Mais après, il y a aussi des grandes différences. Et les films racontent ça, justement. La diversité de star system. Les star system de l'après-guerre en Italie. Ouais. Du coup, la Dolce Vita, à l'époque, soit dite de la Dolce Vita. Et avec les grands metteurs en scène comme Fellini, Rossellini, Visconti et De Sica. Et la réalité d'aujourd'hui, les star systems d'aujourd'hui.
Sur cette question d'image, vous avez dit par le passé, j'ai souvent été traité comme un objet d'exposition. C'est très fort comme phrase.
Non, ça je ne l'ai jamais dit.
Vous n'avez jamais dit ça ?
Non.
Enfin, je l'ai lu en tout cas.
C'est vrai.
Ça a mal été transcrit alors.
Non. Ça non. Je pense juste que c'est vrai. Quand on, c'est vrai, ce que je dis pour Anita Ekberg, je dis justement que peut-être que sa beauté, des fois, n'a pas toujours su la gérer. Et que c'est vrai que ça peut porter, des fois, à être considéré comme un objet. Mais justement, parce que j'ai pensé aussi à ce qui s'est passé à l'époque, dans le sens que la carrière d'une comédienne était vraiment liée à l'âge, à son âge biologique. Et que justement.
Et heureusement, ce n'est plus le cas.
Voilà. Et c'est ça que les films racontent. Comme on dit, ça aussi surtout. Ça veut dire que comme le star system a changé et comme les femmes sont considérées aujourd'hui et comme elles étaient considérées à l'époque. C'est pour ça que les films, c'est vraiment un contraste de culture. Ouais.
On vient d'évoquer le fait d'être femme avec une image à travers les décennies. Aujourd'hui, votre grande fille, elle aussi est en train d'embrasser en quelque sorte ce métier. Deva a déjà posé à la une de nombreux magazines de mode et vous avez posé à ses côtés il y a quelques mois à la une de Vogue Italia, mais légèrement en retrait sur le côté, sur la photo. Comme si vous souhaitiez quelque part vous lui laisser la place.
Mais je pense que c'est beau de voir ces enfants grandir, faire quelque chose qu'ils aiment, et on peut les accompagner. Mais après, c'est sûr que tout ça dépend d'eux. Ça me fait plaisir de savoir que mon métier peut être une source d'inspiration pour mes filles. Parce que Deva, elle aime le monde artistique. Léonie aussi, ma fille plus jeune, elle aime le théâtre et tout. Mmh. Du coup, de voir qu'ils ont une sensibilité artistique, ça me touche énormément.
Inquiète, confiante, protectrice, puisqu'elles vont embrasser un monde que vous connaissez, dont vous connaissez aussi les défauts.
Mais je pense que d'avoir une passion, c'est très important. Mmh. Et de dire à ses enfants, ah, mais il ne faut pas faire mon métier parce que c'est dur. Comme pour dire, moi, je peux le faire et pas toi. Mais je pense que si on aime quelque chose, moi je pense que mon métier est magnifique. Et si mes enfants ont envie de faire un métier qui est dans le monde artistique et ils aiment ça, ben je vais les accompagner, bien sûr.
Merci Monica Bellucci d'avoir été ce soir notre invitée sur RTL. Vous serez donc sur la scène du Châtelet, magnifique théâtre parisien, le 14 novembre pour Callas, Lettres et Mémoires en version symphonique, s'il vous plaît. Ce sera une première d'ailleurs dans la capitale. Merci beaucoup Monica Bellucci. Très courte Merci. Pause et puis les dessous de l'actu dans RTL Soir, la vente aux enchères de la dernière collection Camailleux après la fermeture des magasins. Et puis laissez-vous tenter dernière avec la géniale réédition de l'album Revolver des Beatles. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir.
Julien Cellier. RTL, s'informer ensemble.
RTL Soir à vos côtés, 18h32 minutes.
RTL Soir
avec Julien Cellier
et avec Agnès Bonfillon qui vous rappelle les trois grands titres de l'actualité ce soir.
Pour la quatrième fois, le gouvernement engage sa responsabilité via le 49-3. Cela concerne l'ensemble du budget. Pour la quatrième fois, les insoumis vont déposer une motion de censure. Enveloppe débloquée en urgence pour la pédiatrie. Le ministre de la Santé, François Braun, vient d'annoncer 400 millions d'euros supplémentaires. Et puis au Brésil, des milliers de partisans pro-Bolsonaro défilent en ce moment même dans les rues de Rio. Après la défaite de leur candidat à la présidentielle, ils réclament l'intervention de l'armée.
La tendance météo pour demain, Peggy.
Une perturbation pluvieuse et venteuse va traverser le pays d'ouest en est.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous maintenant de la vente aux enchères Camailleux. Rendez-vous compte, la dernière collection n'a même pas eu le temps de sortir en rayon. Liquidation, fermeture de 500 magasins, plus de 2000 licenciements. Et donc, in fine, des stocks XXL. Bonsoir Emmanuel Michel.
Bonsoir.
Aujourd'hui, 2 millions de pièces étaient mises en vente à Vendeville dans le Nord. Qu'est-ce qu'on pouvait acheter ?
C'était l'intégralité des stocks de Camailleux qui étaient en vente. D'abord ceux des 509 magasins dans toute la France, 1,2 million de vêtements et accessoires. Étaient aussi mises aux enchères les stocks provenant des entrepôts, près de 600 000 pièces, avec un lot particulièrement attendu, des pièces inédites qui devaient composer la nouvelle collection hiver 2022. En tout, la valeur de vente en magasin est estimée à 48 millions d'euros. Une vente assez exceptionnelle et rare dans le secteur, ce n'est pas souvent que de si grandes quantités de prêt-à-porter sont mises aux enchères. Mais aussi particulière pour le commissaire-priseur Patrick Deguine, qui dirigeait la vente.
Ce qui est particulier, c'est que je pense que malheureusement, c'est la plus grosse liquidation judiciaire de l'année, avec plus de 2700 personnes qui se retrouvent sur le carreau, c'est une entreprise avec une notoriété nationale. Camailleux, c'est un nom que tout le monde connaît. C'est très émouvant. On aurait préféré, bien évidemment, en tant que commissaire-priseur, c'est nous qui sommes chargés de le faire, on aurait préféré ne pas le faire et que les personnes qui travaillaient dans cette entreprise puissent continuer sereinement leur activité.
Qui pouvait acheter, Emmanuel ? Tout le monde ou alors juste les professionnels ?
Contrairement aux liquidations en magasin, il n'y avait pas de particulier dans la salle des ventes aujourd'hui. D'ailleurs, la marchandise n'était visible que sur de simples photos projetées sur grand écran. Ce sont les professionnels du secteur du déstockage qui avaient préalablement visité les magasins et les stocks de Roubaix qui étaient présents. Des plateformes de vente aussi françaises et internationales se sont manifestées. Une cinquantaine de personnes présentes sur place donc, et d'autres en ligne ou par téléphone. Pour enchérir, il fallait d'ailleurs avoir versé une caution de 50 000 euros. La vente a duré une heure. Et pratiquement l'intégralité des lots a été achetée par une même enseigne, Nose, qui a déboursé précisément 3 820 000 euros. C'est Sébastien Jaffres qui a enchéri pour l'enseigne.
On ne s'attendait pas à ce que sur certains lots les enchères montent autant, mais bon, bah voilà, ça fait partie du jeu. C'est quand on a l'habitude de pratiquer les ventes aux enchères, on sait que ça peut se passer comme ça. Aujourd'hui, voilà, comme c'est une marque qui est quand même très connue, ça va être forcément attractif. Donc nous, on ne s'en sert pas forcément comme produit d'appel. C'est pas l'objectif. Nous, l'objectif, c'est d'acheter des lots de marchandises, puisque l'approvisionnement des magasins Nose ne se fait que comme ça.
Les dessous de cette vente aux enchères Camailleux avec Emmanuel Michel dans le Nord pour RTL. Merci Emmanuel.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h36 minutes.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et on va parler musique maintenant, s'il vous plaît. 56 ans après sa sortie, l'album Revolver des Beatles vient de ressortir. Bonsoir Steven Bellery.
Bonsoir à tous.
Vous vous êtes plongé dans ce coffret collector de 5 CD.
Il fallait au moins ça pour Revolver, album qui a changé la face de la pop. Un disque important dans la carrière des 4 anglais. Il marque un virage, un plus expérimental, moins policé, avec notamment le psychédélique Tomorrow Never Knows. Dans le coffret, on retrouve bien sûr l'album original. En mono, une nouvelle version stéréo vidéo épatante, mais surtout des bonus, des moments captés en studio en 66.
Where are you, Paul? Are you there? Do you want him to use? Yes. Do you want him to use a course without the project at all?
Paul McCartney est en train d'enregistrer Eleanor Rigby. Voici la version restaurée.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been.
Eleanor Rigby est la seule chanson des Beatles où aucun Beatles ne joue. Mais oui, c'est 8 cordes qu'on entend Eleanor Rigby. C'est Paul tout seul, on n'a fait que boire le thé, phrase de John Lennon lue dans le beau livret de plus de 100 pages. Paul McCartney y raconte, pour Revolver, on voulait faire des chansons innovantes qui devaient traverser le temps.
Autre pépite de Revolver, l'inoubliable Yellow Submarine, Steven.
Eh oui, l'une des rares chansons des Beatles interprétée par Ringo Starr. L'idée du sous-marin jaune s'est imposée à McCartney, on l'apprend, alors qu'il s'endormait dans un demi-sommeil. Dans le titre plein de bruitages, figurez-vous que c'est Brian Jones des Rolling Stones qui fait s'entrechoquer deux verres ensemble. Même le chauffeur des Beatles, un certain Alf Bicknell, fait du bruit avec des chaînes métalliques. Il est crédité, hein, et Marianne Faithfull était dans les chœurs.
Et les Beatles, ils se rebellent aussi dans Revolver, Steven.
En écrivant une ode à la weed. Et ouais, c'est Bob Dylan qui leur fait tester pour la première fois la marijuana en 64 aux États-Unis. Deux ans plus tard, les Beatles la veulent dans leur vie. Got to get you into my life. C'était aussi un titre hommage à la Motown et à la Stax.
Ah oui, il y a du bon son soul. Ça coûte combien le coffret inédit ?
C'est très très joli, j'ai dans les mains.
Ah oui,
5 CD.
Vous pouvez me le passer.
En vinyle, c'est un peu plus cher
tout
encore.
Tout le monde le veut là autour de la table. Je vous le rends, Steven.
Il est numéroté.
Mais oui, je vous rends passez,
les...
je
vous rends les vinyles. Allez, petite pause et puis on va défaire le monde dans RTL Soir. 20 minutes d'infos différemment avec Cyprien Sony. Sony, c'est mieux. Sony, c'est pour la chanson. Isabelle Choquet et Laurent Tessier. On va défaire le monde, on va défaire les services secrets. Experts, espions du monde entier cherchent à savoir qui a perforé le gazoduc Nord Stream en pleine mer. Comment travaille-t-il ? Réponse après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.